Bienvenue dans le Movers and Checkers Show de Entreprendre dans la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Dans ce talk show, je partage ma conversation avec une personnalité engagée pour une mode plus durable, éthique et responsable. L'objectif ? Comprendre les enjeux et partager des solutions concrètes pour améliorer les pratiques au sein de notre industrie, souvent montrée du doigt. J'espère que ces conversations vont vous inspirer et vous donner envie, à votre tour, d'être acteur du changement. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Movers and Checkers Show de Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Valérie Moati, elle est doyenne de la faculté ESCP Europe. Bonjour Valérie.
Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors je me présente un petit peu plus longuement. Donc après une carrière en entreprise successivement chez Procter & Gamble et après ce qui était PPR à l'époque qui est devenu Kering depuis, j'ai décidé de me reconvertir vers l'enseignement et la recherche. Donc je suis devenue professeure ESCP Europe et mes champs de compétences sont notamment le supply chain management et la stratégie. Et assez rapidement, je me suis beaucoup intéressée à un sujet qui nous occupe aujourd'hui et sur lequel je vais revenir, sur toutes les questions de développement durable, qu'il s'agisse des aspects sociaux ou environnementaux, dans mes recherches et également en enseignement. Et puis,
Je vais te couper beaucoup, c'est ma spécialité. Chez Procter & Gamble et chez Kering, tu faisais quoi exactement? C'était quoi tes jobs?
Alors, chez Procter & Gamble, je suis rentrée au département finance, mais j'ai surtout eu des responsabilités autour de la stratégie assez traditionnelle chez Procter & Gamble sur les secteurs lessives, couches. Et puis, un peu plus tard, je me suis occupée aussi du pôle pharmaceutique et des relations avec les grands clients de Procter & Gamble, et notamment j'étais sur le compte clé Auchan. Et chez PPR, j'étais à la direction de la stratégie à l'époque, donc je m'occupais à vrai dire beaucoup plus du secteur distribution, à l'époque de ce qui était dans le giron de PPR, Printemps, Fnac, Redoute, etc., que du pôle luxe qui était en pleine émergence, puisque je suis rentrée peu après le rachat de Gucci.
Et là, à l'époque, juste pour recontextualiser, c'est quoi les questions qu'on traite? Ça ressemble à quoi les journées? C'est quoi les sujets qu'on
traite? Alors, mes sujets principaux, c'était notamment l'innovation chez PPR. Alors, j'étais responsable, entre autres, de la société de capital risque du groupe PPR à l'époque, qui avait décidé d'investir dans des startups innovantes de la distribution et des services. Et comme on était à la fin des années 90 et au début des années 2000, donc c'était le plein essor des premières startups Internet. Donc, j'ai pris participation dans, par exemple, Maxi Miles, si ça te dit quelque chose, Mr. Good Deal. Donc j'ai vraiment plongé dès le départ de ce grand mouvement des startups Internet là-dedans pour le groupe PPR, en tant que à la fois veille concurrentielle et prise de participation pour donner des pépites éventuelles financièrement au groupe PPR. Et parallèlement à ça, je travaillais aussi beaucoup avec toutes les enseignes du groupe sur des projets multi-enseignes, d'échanges d'expertise, par exemple des groupes supply chain, groupe achat, la mise en place d'une base de données clients commune à toutes les enseignes du groupe, puisque le groupe PPR, qui a beaucoup changé de périmètre depuis, mais avait pour vocation de créer vraiment un groupe en tant que tel et du coup de développer les synergies entre les enseignes qui finalement avaient été rachetées assez peu avant.
Et pourquoi ce move? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu ailles vers l'enseignement, vers la recherche,
etc.? Bonne question. Alors, c'est deux éléments. Bon, il y a d'abord un élément personnel extrêmement fort. Je me suis posé des questions existentielles sur le sens de ma vie. J'avais deux enfants très jeunes à l'époque. Et au même moment, donc c'était, comme je l'ai dit, au moment de ce qu'on appelle depuis un peu la bulle Internet, mais on a bien vu qu'elle s'est dégonflée, mais elle s'est regonflée depuis. Enfin, c'est quand même une grosse tendance de fond. Je me suis dit, on est à un moment où il y a vraiment des choses intéressantes à réfléchir. Je me sentais un peu trop dans le quotidien et dans l'action. Et je me suis dit, c'est bien de prendre du recul pour se poser des questions sur les grandes évolutions de notre temps, etc. Et c'est la rencontre notamment d'un conférencier à l'époque qui faisait des conférences chez PPR quand j'y travaillais et qui était professeur. Et du coup, j'ai discuté avec lui et j'ai réfléchi sérieusement, donc à la fois pour des raisons personnelles et des raisons intellectuelles, à me reconvertir. Mais c'est vrai que c'est une reconversion assez radicale, je confirme.
Et donc là, tu es professeur à l'ESCP, tu es aussi professeur visitant au MIT.
Oui, je l'ai été pendant quelques mois, effectivement, en 2011. D'accord. Et par ailleurs, j'ai été élu, c'est pour ça que je suis doyen du corps professoral, j'ai été élu par tous les professeurs de l'école comme leur représentant, leur responsable quelque part sur les 5 campus, et ça depuis 2 ans. Pour une période de 3 ans.
Dean Valérie Moati.
Voilà, enfin Dean of Faculty, précise.
Et donc,
on a oublié la chaire.
La chaire, ouais,
qui est un élément important. Donc, en parallèle, j'ai lancé et co-dirigé avec une collègue qui est professeur visitant, elle pour le coup est professeur permanent à Catholica à Lisbonne, qui s'appelle Céline Bekassis Moedas. Nous avons lancé ensemble en 2014 une chaire avec Lectra. Alors pour ceux qui connaissent pas Lectra, bon, dans la mode, c'est quand même une entreprise assez connue, mais qui reste une grosse ETI, hein, une entreprise de taille intermédiaire qui fait peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 230 ou 240, et qui est véritablement le leader mondial des technologies pour les industries qui utilisent des matériaux souples, dont la mode, mais également par exemple l'industrie automobile. Il y a 70% des airbags dans le monde qui sont découpés sur des machines Lectra, juste pour donner une idée. Donc ils fabriquent à la fois des machines et des logiciels à la fois pour accompagner les machines et puis aussi des logiciels de création. Par exemple, il y a beaucoup de logiciels de création, de PLM, etc. Donc ça, c'est l'activité de Lectra. Alors pourquoi Lectra s'est associée à ESCP Europe? C'est plutôt ça le sujet. Parce que Lectra, je vous la fais courte, mais Lectra avait collaboré déjà avec l'école quelques années auparavant dans le cadre d'un institut pour l'innovation et la compétitivité qui avait été le fruit d'une étude faite par une ancienne collègue à moi qui est Delphine Manceau et Pascal Morand, qui était notre directeur général à l'époque, qui a été aussi directeur général de l'IFM et qui est actuellement président de la exécutif de la Fédération des couturiers de la haute couture. Et donc, ils avaient été missionnés par Christine Lagarde pour faire une étude sur l'innovation. Cette étude sur l'innovation avait entre autres interviewé Daniel Harari, qui est le CEO et président aujourd'hui de Lectra. À l'époque, il était juste CEO, c'était son frère qui était président. Et à partir de là, l'école a commencé à travailler avec lui sur des sujets d'innovation. Donc, des étudiants ont fait une étude pour Lectra, etc. La conclusion qu'il en a tirée, c'est « je voudrais faire plus de choses avec l'école parce que vous faites vraiment des choses intéressantes ». C'est à partir de là qu'est née l'idée de cette chaire. Donc, on a commencé à travailler dessus fin 2013, mais en 2014, on a lancé une chaire sur la thématique de mode des technologies, qui est un peu loin de notre sujet, mais on pourra y revenir, mais qui a été extrêmement innovant et précurseur en 2014 d'associer mode et technologie. C'était presque un gros mot de parler de technologie dans la mode à l'époque. Et puis la chaire a été signée pour 3 ans, puis renouvelée à nouveau pour 3 ans, et on est là actuellement à la fin des 3 ans. Et au sein de cette chaire, et je vais être rapide, on développe à la fois des conférences, des cours pour nos étudiants sur les thématiques de la mode et des recherches et des études sur ces thématiques-là.
C'est ça, une chaire, peut-être pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une chaire et qui ne sont pas passés par le cursus. C'est ça, c'est des conférences, des cours pour des étudiants au sein d'une école de commerce ou d'une université.
C'est pas toujours sous cette forme-là, mais la chaire, c'est un partenariat entre une institution académique et une entreprise. C'est une forme de mécénat. Il faut savoir que ça a le statut fiscal du mécénat pour les entreprises et que l'idée, c'est d'aider les écoles et les universités à se développer dans certains sujets. Et pour l'entreprise, Lectra, c'est un petit peu un cas à part, mais toutes les autres entreprises qui ont des chaires chez nous, l'idée, c'est aussi d'avoir un accès privilégié à nos étudiants, notamment dans le cadre de recrutement.
Passons à notre sujet de prédilection. Aujourd'hui, on parle de sustainability et je suis vraiment très heureux de te recevoir, Valérie, parce que enfin, on a quelqu'un qui suit ce sujet de près depuis près de 15 ans maintenant et qui va nous donner un petit peu de perspective sur l'évolution de ce sujet dans l'industrie de la mode depuis ces 15 dernières années. Donc, je te donne le micro, explique-nous tout et aide-nous à comprendre d'où on vient et pourquoi on a mis autant de temps à gérer ce sujet dans la mode.
Alors, j'ai pas forcément les réponses à tout, mais effectivement, j'ai la chance d'avoir suivi ce sujet-là depuis un petit peu moins de 15 ans, disons 13-14. Alors, pas spécifiquement dans la mode. Faut savoir que quand j'ai commencé à travailler sur des recherches sur ce thème-là, la mode est toujours un sujet qui m'a intéressée, mais j'étais pas spécialement dans la mode et la chair n'existait pas du tout à ce moment-là. Donc, avec une de mes collègues, notamment, qui s'appelle Valentina Carbone, qui aujourd'hui, c'est intéressant quand même à signaler, co-directrice avec Aurélia Hacquier d'une chaire sur l'économie circulaire à l'école, qui est financée par Deloitte et qui fait vraiment des très jolies choses, hein, pas dans la mode, mais sur ces sujets importants du développement durable et de l'économie circulaire. Et donc, toutes les deux, on s'est lancées dans des recherches multisectorielles, notamment au départ sur les sujets de la supply chain, pour essayer de comprendre, au départ, c'était un peu un état de l'art, où en sont les entreprises, quelles sont celles qui innovent particulièrement, qui sont en avance, pourquoi, et puis quels sont les freins éventuellement, etc. Donc, ce que j'en tire, hein, quelques éléments. Donc, on a fait plusieurs études en utilisant des méthodologies différentes, des interviews d'entreprises qualitatives, quantitatives en ligne, des analyses aussi de bases de données très importantes non financières. Vous savez, il y a un certain nombre d'instituts qui analysent les entreprises sur ces critères-là, hein, les critères de responsabilité sociale. Donc, je passe sur la méthodologie, mais ce que j'en retiens aujourd'hui, et notamment en mettant en perspective par rapport au secteur de la mode, c'est que, d'une part, le secteur de la mode, sur les premières études qu'on a faites, donc qui étaient à la fin des années 2000, enfin entre 2005 et 2010, notre recueil de données, on se rend compte que la mode était extrêmement à la traîne. Il y avait extrêmement peu d'entreprises de mode à l'époque, à part des outliers, comme on les appelle, type Patagonia, on y reviendra, hein, qui étaient déjà très engagées sur ce domaine. Les entreprises de mode, mais c'était même pas du tout à l'agenda. On n'en parlait pas du tout. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose à remarquer par rapport à la mode. Après, sur les grands éléments remarquables sur cette période-là, entre 2005 et 2010, plus ou moins, c'était, alors, d'une part, que c'est un message, je trouve, qui est important même encore aujourd'hui, hein. C'était l'époque où on parlait beaucoup de greenwashing, oui. C'est-à-dire les entreprises parlent mais elles ne font rien. C'était un peu après aussi l'accident de la plateforme pétrolière là, de British Petroleum, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. Et du coup il y avait eu beaucoup de choses écrites qui sont vraies, hein, de dire que BP, qui avait beaucoup communiqué là-dessus et qui avait un accident, ça remettait en question tout le discours qu'ils avaient eu. Alors ça reste vrai. Mais nous, on essayait plutôt de porter un message d'espoir et qui a été confirmé par nos études, qui est que quand même, quand les entreprises communiquent sur ce sujet-là, c'est pas... Alors, il peut y avoir une partie de greenwashing qui peut être critiquable, mais bien souvent, c'est quand même une première étape vers l'engagement. Parce qu'une fois qu'on a dit, on est quand même un peu obligé de faire. Alors, parfois, c'est l'action qui suit la communication, mais ça peut être une première étape qui est importante. L'autre chose qu'on a remarqué,
et
c'est...
ça commence toujours par là, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Mais même dans nos vies, à nous tous.
Tout à fait.
Tu parles d'avoir un projet, tu t'engages socialement, et derrière, il faut enchaîner, quoi.
Exactement. Alors là, ça a plus de portée, surtout pour des entreprises cotées, etc. Surtout qu'elles pouvaient mettre en valeur des choses qu'elles ne faisaient pas complètement. Mais un certain nombre, et on l'a vraiment suivi dans le temps, un certain nombre se sont vraiment engagés derrière. Donc, pour moi, ça reste quand même très positif. L'autre chose, c'est que ça passe presque toujours au départ par des actions terrain, des actions au niveau de la supply chain. Typiquement, les premières actions, c'est souvent des choses qui permettent aussi d'économiser de l'argent, par exemple au niveau des transports, d'utiliser des carburants plus propres, bien sûr, de limiter les trajets, etc. Et ça peut être un petit déclencheur au départ pour permettre aux entreprises d'y aller. Ça, c'était une première chose. L'autre chose qu'on a remarqué dans nos différentes études, c'est que cette question de développement durable et de responsabilité sociale de l'entreprise, elle a des spécificités, alors d'une part géographique, elle est très culturellement située.
D'accord.
On se rend compte par exemple qu'aux États-Unis, il y a eu des différentes phases, mais je veux dire que globalement, les Américains, les entreprises américaines sont très sensibles à tout ce qui est philanthropie. Alors que en Allemagne ou au Japon encore plus, c'est très orienté environnemental, propreté, etc. Alors que en Europe du Sud et de l'Ouest, c'est plus les conditions sociales des employés, etc. Donc on voit bien qu'il y a des grosses spécificités donc géographiques, culturelles, hein, qui sont très très liées à l'histoire de ces pays, à leur système politique, etc. Et puis il y a aussi des spécificités par secteur d'activité. Et là j'y viens parce qu'on a fait un espèce de mapping sur tout un tas de secteurs. Alors j'ai dit tout à l'heure de façon un peu grossière que le secteur de la mode c'était même pas Alain Jardin, ce qui est pas faux parce que tous les interviews qualitatives que j'ai fait auprès d'entreprises de mode dans ces études un peu multisectorielles, ouais, le retour c'était quand même non, c'est pas du tout dans nos priorités.
On en parle pas.
Mais il y a quand même un sujet qui ressortait notamment à partir des bases de données RSE, etc., c'est le sujet social qui était quand même assez sur le devant de la scène, avec, il faut quand même rappeler que historiquement, le secteur de la mode, peut-être avec le jouet, c'est celui qui a le plus délocalisé la fabrication dans les pays qu'à l'époque on appelait à bas coût, qu'on peut requalifier d'émergents, tout ce qu'on veut. Mais ces questions de social, de conditions des travailleurs, etc., elles sont quand même, par force un peu, venues sur la table assez rapidement. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que les seuls aspects qui étaient un peu à leur agenda, à l'ordre du jour, dans le secteur de la mode, c'était la dimension sociale et en tout cas pas du tout la dimension environnementale. Ils ne percevaient même pas qu'il pouvait y avoir un sujet environnemental
c'est
là-dessus.
Dingue. Et ça, on est en 2000.
Ça, on est vers 2010. Mais oui, attendez, surtout, attends, parce que depuis, donc dans une recherche qu'on a fait récemment avec Céline Abécassis Moedas, donc là je parle de 2015-2016, alors le sujet n'était pas celui-là, le sujet était de comprendre les stratégies de localisation, là pour le coup que des entreprises de mode. Donc où est-ce qu'elles choisissent de faire fabriquer leurs produits et pourquoi ? Donc on s'attendait, alors bon, la raison qui guidait notre étude, c'était notamment les histoires de technologie puisque c'est lié à la chair, mais aussi l'intuition qui avait quand même une tendance à rapprocher la fabrication et notamment pas que, mais notamment pour des questions environnementales et sociales. Eh bien, on a interrogé que 20 entreprises européennes, mais il y en a peut-être une ou deux qui nous a mentionné ça comme élément et pas du tout comme priorité. Donc, il faut quand même dire que même dans les années 2015-2016, c'était
hier,
encore
quoi.
Pas... Oui, tout à fait.
Aujourd'hui
hier,
même.
C'était pas
ouais.
mentionné comme un élément marquant. Hein. Et pour avoir gardé le contact avec certaines de ces entreprises encore un an ou deux après, c'était clairement pas du tout leur priorité de développement. Donc, je pense que c'est que depuis... Alors, je vais faire des bémols, hein, mais que depuis, allez, je dirais un an ou deux, et avec une accélération très forte dans les derniers mois, qu'il y a vraiment un réveil autour de ces sujets-là par les entreprises de mode. Alors, il y a quand même des exceptions. Oui.
Est-ce que dans les autres secteurs, c'était vraiment plus marqué que ça ou la prise de conscience, bon, elle était has-been partout. Peut-être que dans la bouffe, enfin dans la gastronomie, mais dans l'agroalimentaire, peut-être que c'est un sujet qui est plus chaud depuis plus longtemps parce que on sent bien que les consommateurs ils étaient beaucoup plus sensibles à ça depuis un petit bout de temps. Mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai l'impression qu'on tire à boulet rouge sur la mode et je pense que les gens ont leur raison et c'est important parce qu'il faut que ça bouge. Mais bon, globalement, c'était toute la société qui en avait rien à faire, quoi.
Tu as raison, mais il y a quand même des secteurs qui étaient plus sensibles. Alors, tu as cité l'alimentaire, on peut penser aussi à tous les secteurs qui sont très, très sensibles, type industrie pharmaceutique, chimie, tous ces secteurs-là, qui, eux, alors mais aussi de par la réglementation, de par le danger des produits qu'ils manipulent, etc., s'y sont intéressés quand même pas loin de 10 ans avant.
D'accord.
Mais bon. Il y a aussi des raisons qui expliquent ça.
Bon dernier, alors, le secteur de la mode.
Non, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Et c'est vrai, moi, je partage ton sentiment qu'on peut pas non plus tirer à boulet rouge tout le temps sur le secteur de la mode. Il y a eu aussi, d'ailleurs, sur ce sujet-là, c'est très intéressant parce qu'il y a eu une fake news sur le fait que la mode était le deuxième secteur le plus polluant. Et ça, enfin, Vanessa Friedman, qui est une journaliste de mode très, très célèbre du Financial Times, elle a démontré que c'était pas vrai, que, en fait, il y a ce bruit-là qui a couru, je sais pas, il y a quelques années, et que tout le monde l'a repris sans qu'il y ait de preuves scientifiques derrière. Donc, bon, c'est assez intéressant de le garder en perspective. Donc, non, je n'irai pas jusqu'à dire que la mode est le secteur qui pollue le plus et qui fait le moins. Donc, c'est pas du tout l'image que je veux donner. Mais quand même, quand on met en perspective par rapport à d'autres secteurs, c'est pas forcément celui qui est le plus en avance. Mais je pense que c'est aussi un peu contraire à l'ADN du secteur, c'est-à-dire que la mode, par définition, elle implique un renouvellement, une innovation, une création, qui sont pas forcément compatibles avec l'ADN, en tout cas historique, du développement durable.
Et qui a toujours été un moteur de changement sociétaux, quoi. Que ce soit pour la libération des femmes, pour plein de choses, pour le punk, enfin de l'art, etc. Il y a plein d'exemples. Et c'est vrai que sur l'environnement, ça n'a pas été forcément les précurseurs.
Mais ça va changer.
Et ça va changer. Et ça va s'accélérer. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le tipping point qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde s'excite d'un coup, là?
Avant de parler du tipping point, il y a quand même des éléments importants à garder en tête qui sont dans la mode, parce que j'ai fait un peu une image très caricaturale. À l'intérieur du secteur de la mode, tout dépend où on met les frontières, mais il y a quand même, alors outre les acteurs un peu atypiques, j'ai cité Patagonia par exemple, mais ce secteur du sport, du sportswear, a été, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt en avance. Et là aussi, c'est le déclencheur, le catalyseur des pressions fortes. Je pense notamment à tout ce qui s'est passé avec les sweatshops, etc. Au début des années 90, où Nike a été particulièrement attaqué. Ben ça, plus les pressions des ONG lors des Jeux Olympiques, plus l'ADN de ces marques, et auxquelles on pourrait rajouter Stella McCartney, dont je reparlerai tout à l'heure parce que c'est un cas assez intéressant en termes de comment ça évolue, ont quand même infusé par les valeurs du sport, la proximité avec la nature, etc. C'était vraiment des précurseurs à l'intérieur du secteur de la mode. Alors, je sais pas, moi, je les classe dans le secteur de la mode. C'est la mode un peu élargie. Et par contagion, ont généré aussi des initiatives. Je suis persuadée, bon, c'est écrit vraiment nulle part, mais ça m'a été confirmé par plusieurs personnes de chez Kering. Très clairement, on en parlera peut-être, mais l'évolution de Kering, très claire, très construite, etc., vers le développement durable. Alors, c'est bien sûr aussi la vision de François-Henri Pinault qui est convaincu, mais c'est aussi avant tout cette acquisition de Puma qui a, pour moi, imprégner le groupe PPR et Stella McCartney, hein, qui s'est créé aussi à l'intérieur de Gucci, qui ont imprégné le groupe PPR de ces priorités-là, de ces valeurs, de ces façons de travailler. Et ce qui est très intéressant à remarquer aujourd'hui, c'est que la façon dont PPR a pu absorber ces compétences-là et puis après céder, que ce soit l'un comme l'autre, que ce soit Puma ou Stella McCartney aujourd'hui, deux sont sortis du périmètre du groupe.
Oui.
Alors que je suis persuadée, encore une fois, ça m'a été confirmé, alors c'est pas une confirmation vraiment officielle, mais que ça a joué un rôle énorme sur la mise en place de leur environmental PNL, etc. Ouais. Parce que c'était déjà, c'était vraiment le déclencheur, le rachat de Puma.
Extraordinaire.
Et quand on regarde, bon, moi j'ai fait une étude avec mes deux co-auteurs, Valentina Carbone et Aurélien Aquier, sur ASICS, qui est un concurrent donc de Puma et de Nike et d'Adidas, etc. Ces acteurs-là, par rapport au secteur, sont tous très en avance. Donc, parce que ils ont ces valeurs-là au sein même de leur activité. Et ASICS, qu'on sait assez peu, était un des premiers à le faire. C'est-à-dire que la création même de l'entreprise d'ASICS, ça s'est fait au Japon, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez dans quel état était le Japon, complètement à terre, pour redonner le moral et l'espoir aux jeunes Japonais d'après-guerre. Et c'est dans ce contexte-là qu'a été créé ASICS. Alors après, ils se sont lancés dans toute la période, on vend des chaussures et on pense plus à rien. Et c'est que fin 90, début 2000, qu'ils ont rebouclé avec leur ADN d'origine et fait des tas de choses dans ce domaine-là.
Et Patagonia, peut-être que pour ceux qui connaîtraient pas, et je pense que tout le monde connaît Yvon Chouinard, mais pourquoi ils sont tant en avance?
Bon, pour moi, là, c'est vraiment la vision d'un leader, honnêtement. Hein. C'est la vision d'un leader qui est aussi très proche de la nature, valeur fondamentale liée à ça, et qui a bien vu, bien avant tout le monde, l'importance de ne pas gaspiller, ces publicités très précurseurs, n'acheter ce pull que si vous en avez vraiment besoin. Ça peut pas laisser indifférent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Yvon Chouinard, au-delà de Patagonia, a été un acteur extrêmement important dans l'institutionnalisation et la coordination des autres acteurs du secteur de la mode. Il y a notamment un organe qui est assez important en termes de sustainability dans la mode qui s'appelle Sustainable Apparel Coalition, SAC, qui a été fondé par Yvon Chouinard et auquel ont adhéré un certain nombre d'acteurs, alors dont ASICS que j'ai cité, dont H&M, alors qu'on décrit beaucoup, mais qui quand même, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, alors qu'une fois qu'ils ont affirmé qu'ils faisaient des choses, certes, ce qu'ils font n'est pas parfait, mais ils font quand même une partie du chemin. Donc, vaut mieux les encourager que de tirer à boulet rouge, comme dans The True Cost of Fashion, qui a été en son temps aussi, je ne sais plus si c'est sorti il y a 4 ans ou 5 ans, un peu un détonateur de tout ce qui se passe d'horrible dans la mode, que ce soit au niveau social, environnemental. Je pense que ça a été un des tipping points aussi
à ce moment-là. C'est clair. Ben, je reviens sur ma question du tipping point. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup tout le monde s'excite? Parce que c'est très récent. Enfin, l'émulation et la prise de conscience, on a l'impression que c'est il y a quelques semaines presque, ou quelques mois, peut-être un an et demi. Max, quoi.
C'est vrai. Enfin bon, il y a eu quand même un début de prise de conscience, effectivement, avec des éléments type le film The True Cost of Fashion, des choses comme ça. Mais c'est vrai que même à l'époque, alors là, je me souviens aussi, j'avais discuté avec des grands acteurs de la mode, je veux citer personne parce que ça, c'est l'idée, c'est pas de tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais qui faisaient des études auprès de leurs clients sur l'impact, enfin le prix que les clients étaient prêts à payer si les produits étaient fabriqués plutôt en France, par exemple, avec des bonnes conditions de travail que en Chine ou au Bangladesh ou ailleurs. Et clairement, toutes les études montraient, et ça c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5 ans, qu'aucun client n'était prêt à payer plus cher pour qu'on lui garantisse que les conditions sociales étaient meilleures.
Les gens s'en foutaient clairement,
malgré tous ces éléments-là. Je pense, j'ai pas d'études récentes là-dessus, mais je suis pas sûre qu'on change radicalement le résultat de ce genre d'études aujourd'hui.
C'est clair.
En revanche, alors pour moi, il y a plusieurs aspects différents. Il y a l'aspect général sociétal et puis il y a l'aspect spécifique du secteur de la mode. Donc déjà au niveau général sociétal, je pense qu'il y a quand même de plus en plus depuis que les dernières publications du GIEC, il y a une prise de conscience quand même réelle. Enfin nous on le vit au quotidien dans les écoles de management. Greta Thunberg qu'on peut critiquer mais qui crie qui envoie un signal d'alarme à la planète entière.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche à Greta?
Non, enfin moi personnellement je lui reproche rien.
Mais c'est vrai qu'elle fait est trop agressive,
c'est très négatif, c'est très négatif. Et puis elle a pas forcément, enfin certains disent qu'elle a pas forcément de fond et qu'elle fait que crier, mais je pense que c'est très important, moi, ce genre de symbole.
Vivienne Westwood quand elle était à son talk au Galeries Lafayette, elle disait Greta Thunberg, moi, elle permet d'avoir un focus et d'attirer l'opinion, en tout cas sur elle, et au moins elle est un porte-voix d'une certaine manière, quoi.
Je suis convaincue. Et elle a réveillé toutes les jeunes générations qui étaient déjà assez motivées, mais qui là, on l'a vu encore la semaine dernière avec la marche pour le climat, il y en a une encore plus importante récemment à Montréal. Enfin, il y a un vrai mouvement de masse. Nous, on le voit, nos étudiants, ils nous font des pétitions, etc., pour que vraiment on s'engage, que ça bouge. Donc, il y a un vrai, vrai réveil écologique. Et qui est justifié d'autant qu'il y a urgence. Enfin, quand on regarde, moi je suis pas forcément une spécialiste, mais on fait faire ce qu'on appelle la fresque du climat, qui est un espèce de jeu, c'est pas très ludique, mais disons un dispositif pédagogique avec des cartes pour réfléchir aux causes et conséquences entre les émissions de CO2, l'activité industrielle, l'agriculture, la déforestation, tout un tas d'actions comme ça et d'effets, et il faut qu'est-ce qui est la cause de quoi, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, ce que je vous ai cité, c'est assez simple, mais on va très loin, jusqu'aux migrations climatiques, etc. Et on fait ça avec des spécialistes du climat, et ces gens-là nous font prendre conscience qu'il y a vraiment urgence. Dans nos enfants, ne verront plus des villes comme Jakarta, Mexico, qui sont en train de s'enfoncer sous terre et d'être inondées. Le fait que les glaciers, ça a été publié récemment, si on prend plus que 2 degrés par rapport à ce qui est prévu, la vie ne sera quasiment plus faisable sur la Terre. Donc, on est quand même à un moment où les scientifiques nous disent, les grands spécialistes, là, si on réagit pas tout de suite, c'est la catastrophe. On court à la fin du monde, vraiment. Et enfin, c'est prouvé scientifiquement. Donc ça, c'est un élément. Tout le monde n'est pas encore forcément au courant, mais il est de notre responsabilité, nous, en tant que professeurs et en tant qu'école de management, de former nos étudiants là-dessus. Et d'ailleurs, pour la première fois, nos jeunes étudiants qui sont rentrés via la prépa dans notre grande école, dans notre programme MIM, ont tous fait cette fresque du climat et un séminaire de 3 jours dédié à ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire un jour d'être manager par rapport à ces défis-là qui sont vraiment à prendre à bras le corps. Donc ça, c'est déjà une chose, même si tout le monde ne le sait pas, je pense qu'il y a, voilà, un besoin d'informer les gens là-dessus, et je pense qu'il y a une prise de conscience croissante avec toutes ces études qui sont publiées. Ça, c'est l'aspect, je dirais, total qui va bien au-delà de la mode. Dans la mode, pour moi, il y a un double effet. Alors, ça s'est manifesté par des prises de position politiques avec le Fashion Pact, en France, le président Macron qui a missionné François-Henri Pinault, qui était bien choisi, hein, qui était particulièrement leader dans le domaine et qui a fédéré des acteurs du monde entier, parmi les plus grands leaders de toute forme de mode, avec différents segments, etc. Ce qui est génial, parce que c'est un peu comme le Sustainable Apparel Coalition, le SAC que j'ai cité tout à l'heure. Je pense que ces sujets-là ne pourront pas être résolus s'il n'y a pas une collaboration, si tout le monde ne va pas dans le même sens. Donc ça, c'est par exemple pour les conditions de travail, enfin tout un tas de sujets. Donc ça s'est manifesté comme ça. Mais pour moi, ça reflète aussi par rapport au secteur de la mode, l'urgence de... On se rend compte, et ça, il y a de plus en plus de gens dans mon entourage qui le disent, hein, enfin des professionnels de la mode, on est au bout du bout d'un modèle, pas seulement pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques. Quand on regarde, j'ai publié récemment un article dans The Conversation sur l'éventualité d'une mode à la demande et que ça puisse se développer, mais c'est un peu ça l'idée. On se rend compte que la plupart des acteurs de la mode, à part le luxe qui s'en sort bien, ils ne gagnent plus d'argent. Ils sont tous, on a eu un nombre de dépôts de bilan dans les 5 dernières années de gros ou d'entreprises en grande difficulté, y compris ceux qu'on pensait super solides, hein, des Victoria's Secret, H&M qui est aussi en difficulté parce qu'ils ont trop de stock, etc. Donc, on se rend bien compte que le modèle au-delà, alors bien sûr, il y a les aspects écologiques et sociaux qui nous importent aujourd'hui, sont pour moi très, très importants, mais au-delà de ça, c'est plus viable. On est dans un système qu'il faut totalement réinventer. On est au bout d'un modèle, voilà. Donc, comme il faut se réinventer, on se rend compte que peut-être que en limitant le gaspillage, qui pour moi est une des grosses priorités du secteur, en termes écologiques, pas que, hein, il y a aussi toute la chaîne de fabrication, mais tout ce gaspillage qui est fait à tous les éléments de la chaîne, c'est ça notamment qui impacte l'économique. Et je pense que, alors hélas, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais quand il y a urgence, parce que sinon c'est pas viable, les entreprises ont plus tendance à réagir. Et puis après, il y a tout ce qui est mouvement populaire, client, etc., qui est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure sur les étudiants et sur l'urgence du climat et la catastrophe qui va arriver, hein, si on ne fait rien. C'est vraiment important.
Donc c'est vraiment la somme de tous ces événements-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Dans ce Fashion Pact, là, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Est-ce que c'est vraiment engageant ou c'est encore du greenwashing?
C'était à nouveau pareil. Hein, à partir du moment où on annonce qu'on va faire plein de choses, quelque part, ils vont être obligés de le faire. Et au-delà de l'annonce, je pense que cet esprit collaboratif est particulièrement positif. Alors, on a vu qu'LVMH avait décidé de faire cavalier seul, mais ça associe LVMH et Kering. Enfin, c'est plutôt Pinault et Arnaud. Je pense que c'est tellement contre nature. Exactement. Ouais. C'est un concours d'ego. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur au moment justement de rachat de Gucci, hein, qui déjà à l'époque était finalement une lutte limite de cours de récréation entre les deux. À l'époque, c'était plutôt utopie nos pères, mais donc ça, c'est juste irréconciliable. Mais il y a vraiment une nécessité de s'engager ensemble parce que ils ont tous les mêmes problématiques. Donc ensemble, on est plus fort pour générer des innovations. Par exemple, bon, c'est déjà des choses qui pouvaient se faire individuellement. Hein. Je sais que Kering justement et H&M ont investi ensemble dans une start-up anglaise qui s'appelle Worn Again, qui est une start-up qui innove dans le fait de pouvoir recycler du coton. Parce que le problème du coton, quand on essaye de le recycler, c'est qu'il casse. Donc, on a beau vouloir le faire, si le vêtement se déchire, c'est un peu problématique. Donc, Worn Again travaille sur des technologies qui permettent au coton recyclé d'être plus résistant. Et donc, ces deux grandes entreprises, bon, qui en l'occurrence sont pas concurrentes, mais qui étaient intéressées toutes les deux par cette technologie, qui ont investi ensemble. C'est juste un exemple. De même que le Sustainable Apparel Coalition, tous les partenaires investissaient ensemble pour travailler sur des conditions, des meilleures conditions de travail pour les salariés, par exemple au Bangladesh, etc. C'est aussi travailler ensemble parce que pour la plupart, ils ont des fournisseurs communs, des méthodes de travail qui peuvent être proches. Donc ensemble, on est plus fort, on peut mutualiser un certain nombre de choses et on peut mettre en place un certain nombre de choses pour les fournisseurs, pour les clients. Après, quand on est directement concurrent, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais je suis convaincue que ça ne peut passer que par le collaboratif. Et en ce sens-là, le Fashion Pact,
ça commence
au-delà de l'annonce, de l'effet d'annonce et du greenwashing, etc., ça passe aussi par là.
Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent. C'est que il y a une urgence qui est telle que il faut que ça aille beaucoup plus vite encore. C'est presque trop lent aujourd'hui. Comment on fait pour accélérer ce mouvement?
Alors ça, c'est une bonne question, mais la réponse n'est pas évidente. Je pense que c'est plus le sentiment d'urgence va se imprégner les personnes, plus il y aura nécessité d'accélérer. Pour accélérer, il faut des moyens, il faut des compétences aussi. Hein, donc ça passe aussi par la formation, par la sensibilisation.
Mais ça, les écoles sont prêtes à. Est-ce
à
que les écoles,
dessus.
Ouais, les écoles de mode, ouais. Est-ce que. Alors tu vas pas tracher qui que ce soit et c'est pas l'objet de ce podcast. Mais est-ce que les formations sont prêtes? Parce que moi j'étais à l'école il y a encore pas très longtemps. J'étais une école de mode très arty au studio Berceau. Bon, c'est des sujets dont on parlait pas encore. Mais est-ce qu'à l'IFM on parle de ça? Est-ce que dans les écoles de commerce on parle de ça? Est-ce que on forme les jeunes gens qui arrivent sur le marché? Parce que tu vois, moi, si j'ai fait ce podcast, c'est parce que j'ai grandi et tous les gens qui m'entourent, on ne sait pas par quel bout le prendre finalement parce qu'on ne l'a pas appris à l'école et il n'y a pas vraiment de how-to, quoi.
Bah là aussi, on est à un tipping point, je pense. Ouais. On est à un tipping point du fait notamment de nos étudiants et de quelques visionnaires à l'école, Aurélien Acquier que j'évoquais tout à l'heure chez nous, qui vraiment prennent le problème à bras-le-corps et qui font en sorte que dans tous nos programmes, tous nos étudiants puissent être formés là-dessus. Sur les écoles de mode, alors je connais pas forcément tout le panorama, mais l'IFM en l'occurrence, je sais pas si ça a déjà été annoncé, mais il lance avec Kering une chaire sur ce sujet-là. Donc ça bouge. Là, on est vraiment à un moment où ça bouge. Et je sais que les autres écoles de commerce, alors les écoles de mode, les autres, je ne sais pas trop, mais les autres écoles de commerce, au jour d'aujourd'hui, prennent vraiment la mesure du problème et investissent toutes dans ce domaine. Hein. Il n'y a pas le choix.
Alors, tout à l'heure, tu évoquais des solutions sur le sourcing, sur la logistique, etc. Mais le vrai sujet, c'est la surconsommation, c'est la surproduction. Et tous ces gens qui poussent à la consommation, la multiplication des collections, etc., on connaît tous ces problèmes-là. C'est comment on réinvente tout ça pour faire un business qui soit viable et qui soit pas la course à l'échalote pour faire toujours plus de croissance et d'argent. Comment on fait?
Ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet de business school, en l'occurrence, au-delà de la mode, effectivement. Ouais. Hein. Comment est-ce qu'on peut continuer à quand même pas sortir complètement de l'économie et pas faire de la décroissance non plus, mais tout en consommant mieux? C'est ça, le truc, c'est de changer les mentalités pour arrêter de consommer toujours plus, mais consommer mieux. Donc, consommer typiquement la production à la demande, ça peut être une solution, hein, fabriquer que la mode dont on a vraiment besoin et qui est vraiment adaptée, bon, en termes de morphologie, en termes de type de produit, en termes de coloris, de matière, etc., plutôt que de créer tout ce gaspillage, parce qu'on sait qu'au-delà, bon, il y a le gaspillage à tous les niveaux, hein, il y a le gaspillage au niveau des matières premières, il y a le gaspillage au niveau de la fabrication. On sait que le gros de la fabrication de vêtements, c'est de la fabrication dite soustractive, c'est-à-dire qu'on prend un tissu, on le découpe, donc toutes les chutes poubelles, enfin pour dans la plupart des cas. Après, il y a le gaspillage au niveau de tout le circuit de distribution, parce que on a rallongé tellement les chaînes en les sous-traitant, en les envoyant loin, etc., que c'est aujourd'hui impossible d'avoir une parfaite adéquation entre ce qu'on va vendre et ce qu'on fabrique. Donc, on fabrique beaucoup plus que ce qu'on va vendre, d'où les stocks pléthoriques dans tous les magasins et les problématiques financières que j'évoquais, par exemple d'H&M, mais je citais cet exemple-là.
Il y en a plein.
Toutes les enseignes qui ont déposé le bilan dans les dernières années, il y en a des très nombreuses.
C'est le sujet.
Oui, pour moi, c'est le sujet principal. Bon, c'est aussi peut-être des problématiques de création qui sont plus historiquement au cœur de problèmes économiques dans ce secteur-là. Hein. C'est-à-dire que quand on est passé de mode, on est passé de mode. Mais au-delà de ça, il y a un vrai sujet de stock. Et puis après, il y a la consommation, enfin le gaspillage au niveau du client final. Étant donné que les prix sont devenus dans certaines enseignes tellement bas que ben pourquoi pas acheter un t-shirt de plus à 5€ même si on le met jamais, ben tant qu'on change pas ce genre de mentalité, il y a aussi du gaspillage à ce niveau-là. On a tous nos armoires, enfin tous peut-être pas, mais un certain nombre de personnes, des armoires remplies avec des choses qu'on met pas. Donc là, bon, je disais, il faudrait éduquer là aussi les personnes en leur disant, ben quand on achète un produit, il faut se dire, si je le mets pas au moins 30 fois, ça sert peut-être à rien de l'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais bon, ça va prendre du temps d'éduquer les mentalités. Et puis après, il y a toute la question du recyclage. Qu'est-ce qui se passe en fin de vie? Une fois, alors, bon, il y a des circuits, hein, mais bon, de ce que je comprends, il n'y a rien de vraiment très efficace, justement parce qu'il n'y a pas forcément de technologie pour recycler les matières premières, parce que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de fabriquer un vêtement avec des matériaux recyclés qu'avec des matériaux originaux. Donc, ça incite pas beaucoup les entreprises à le faire. Et puis, tout ce qu'on, pour se donner bonne conscience, on donne à des associations, à machin, sur le nombre, enfin, sur la quantité, il y en a très, très peu, finalement, qui vont,
Ça va souvent à la benne et enfoui dans les dans les sols. Bon, ça, c'est quand même un peu, c'est pas très jouissant tout ça quand même. et c'est souvent la réflexion que je me fais avec les gens qui bossent dans ce secteur. C'est pas très réjouissant. Et tu te dis, mais comment on va s'en sortir? Parce que la tâche semble tellement énorme, immense, que je sais pas. Tu n'as pas des bonnes nouvelles à nous annoncer quand même là?
Je pense que c'est chacun à son niveau, c'est plein de petits pas. Il faut sensibiliser, donc ce que tu fais c'est super à travers des podcasts, il faut sensibiliser le maximum de personnes sur l'urgence de la situation.
Et d'ailleurs, je lisais un article tout à l'heure dans l'Express, c'était la McCartney qui disait on n'a pas assez de porte-voix dans la mode qui parle de ces sujets-là. Donc il faut sensibiliser.
Ouais, c'est très important.
Passe que par là de toute façon.
C'est très important. Très important.
C'est l'éducation.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même, enfin bon, on en parlait, le Fashion Pact, il y a quand même des signaux positifs. Jusque-là, il y avait vraiment quand je dis jusque-là, jusqu'à 2-3 ans, il y avait vraiment, à part Kering et vraiment des exceptions comme ça, il y avait une déconnexion totale entre la notion de mode, de branchitude, de création et ces questions de développement durable.
C'était pas cool.
Non, voilà. Et c'est vrai que les marques qui se lançaient sur ce créneau-là, elles n'étaient pas forcément au top de la création. Voilà. Ça, je trouve qu'on commence à vraiment sortir. On voit de plus en plus de marques de ce nom qui s'y intéressent et qui s'y intéressent, y compris dans la conception, dans l'utilisation des matériaux, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi des vrais sujets sur quelles matières on utilise, est-ce que ces matières sont durables, est-ce qu'elles sont produites dans des bonnes conditions, toutes les questions aussi sur les matières animales. Là, il y a eu énormément de choses dans les derniers mois ou années sur le fait d'utiliser le cuir, la fourrure, les cuirs précieux notamment, avec une volonté un risque d'extinction de certaines espèces si on continue à répondre aux demandes des Chinois sur tel type de peau de crocodile ou autre. Donc il y a quand même des vraies réactions. Pour moi, il y a quand même des vrais signaux positifs d'un certain nombre d'acteurs qui s'engagent. Évidemment, c'est à chaque fois des petits pas, Mais voilà, quand des gros acteurs s'engagent, c'est des petits pas, mais qui font boule de neige parce que ils vont répertorier chez leurs fournisseurs, ils vont répertorier chez les fournisseurs de leurs fournisseurs. C'est comme ça que ça a commencé avec Kering. Hein. C'est tout le bénéfice de du fameux EPNL, de l'environmental PNL, c'est que ça a été répertorié tout au long de la chaîne jusqu'aux producteurs,
les jusqu'au
extractions.
Champ, quoi.
Oui, ça ou les extractions de pierres précieuses pour les bijoux. Ou ce genre de choses.
Donc, tu es quand même optimiste.
Ah bah oui. Oui, forcément. Et l'innovation, ça passera à mon avis aussi beaucoup par l'innovation. Ouais. C'est réinventer les business models, changer complètement. Mais là aussi, je suis optimiste parce qu'il y a tellement de problèmes financiers de ces entreprises que de toute façon, elles ne vont pas avoir le choix que de se réinventer. Il n'y a pas le choix. Elles ne vont pas pouvoir survivre.
Quels sont les bons exemples, enfin les exemples que tu trouves intéressants en ce moment sur ces nouveaux modèles économiques, que ce soit location, la prévente, etc. Est-ce que tu as des exemples en tête?
Alors, à vrai dire, j'ai pas un ou deux exemples parce que c'est plus des startups. Effectivement, il y a des gens comme toutes les digitally native vertical brands type Asphalt qui vient à notre conférence là dans pas longtemps, ou ce genre d'initiative très intéressante.
Mais c'est tout petit encore.
Oui, c'est des petits. Après, ouais. J'avoue que j'ai pas un exemple. Comment il s'appelle, les fabricants australiens là de chaussures, Allbirds.
Ouais. Allbirds.
Donc ça peut être un exemple, Allbirds. Ouais. Mais non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses.
Il y a encore plein de choses à inventer quand même,
inventées.
Mine de rien. Ouais.
Il y a encore beaucoup de choses qui sont inventées.
Quand t'as des jeunes gens, des étudiants, et toi tu les côtoies tous les jours, quand ils te demandent, ok, ben moi j'ai envie de bosser dans la mode, mais c'est vrai que moi c'est une question que je me suis posée aussi à un moment donné. C'est quand même, voilà, c'est pas vrai, mais c'est de notoriété publique que c'est l'industrie la plus polluante du monde, que tout le monde fait tout de travers et que finalement le monde court à sa perte. Qu'est-ce que tu leur dis pour rester optimiste et leur dire, ok, non, mais c'est quand même une bonne direction, la mode, ça reste quand même une industrie qui est fabuleuse. Qu'est-ce que tu leur dis?
Justement, tout reste à faire.
Ouais.
Donc, si vous êtes motivé par ces questions-là et que vous êtes intéressé par la mode, c'est une très bonne nouvelle. Ça va faire bouger les choses dans la mode. Et je pense que la mode est prête aujourd'hui à faire bouger les choses.
Dernière question pour clôturer mon interview. Et c'est une question que j'aime bien poser dans tous mes interviews. C'est qui tu souhaiterais entendre dans ce podcast?
Mais c'est plus par de la curiosité, donc je sais pas, mais si tu as pas entendu, c'est vrai qu'il y a une marque qui est positionnée depuis longtemps sur ce segment-là en France. J'arrive pas trop à savoir s'ils réussissent pas. Donc c'est pas pour leur degré d'innovation, mais c'est plus pour savoir la durabilité, pas en termes de développement durable, mais la solidité. Ouais. C'est Ekyog.
Oui.
Je suis jamais arrivée à les avoir.
Oui.
D'ailleurs, ils m'ont jamais répondu, mais c'est quand même un des premiers à s'être positionné sur ce segment-là. Ils ont quand même pas mal de boutiques, dont certaines qui ferment. Je trouve que ce serait intéressant d'avoir leur point de vue sur le sujet.
Ouais, parce qu'ils se sont positionnés bien en 2005, 2007, 2008, un truc comme ça. Ouais. Je m'en rappelle très bien.
Tout à fait. J'arrive pas trop à savoir si ça marche finalement ou si ça marche pas, et d'avoir leur perspective aussi dans le temps. Est-ce que eux ils voient une accélération, vu que c'est quand même des sujets qui sont un peu plus chaud actuellement? Ce serait intéressant d'avoir leur perspective.
Très bien. Et merci beaucoup Valérie, à très bientôt.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.